Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. En Espagne, on recherche toujours très activement un suspect des attentats de jeudi dernier. Mais cet homme, Younes Abou Yacoub, est-il justement toujours sur le sol espagnol? Nous entendrons notre envoyé spécial à Barcelone, Camille Magnard, qui nous dira si l'enquête progresse. Les Kurdes d'Irak vont-ils tenir, comme ils l'ont annoncé le 25 septembre prochain, un référendum sur leur indépendance? Aujourd'hui, un représentant annonce que finalement, ils pourraient y renoncer en échange de concessions de la part de Bagdad. Nabila Hamel nous aidera à y voir plus clair dans ce dossier. Au Zimbabwe, la première dame Grace Mugabe obtient finalement l'immunité diplomatique de l'Afrique du Sud. Elle est soupçonnée d'avoir frappé une mannequin dans un hôtel de Johannesburg. Nous entendrons les précisions de notre correspondante Lisa Fabian. Nous parlerons également dans cette édition du quotidien souvent difficile des étudiants en France. Pour le moment, ils sont encore en vacances, certes, mais il a beaucoup été question d'eux cet été, notamment avec l'annonce de la baisse des APL. Il en est encore question aujourd'hui, puisque l'UNEF publie son enquête annuelle. Le coût de la vie va donc augmenter pour les étudiants de plus de 2% cette année. Nous entendrons les explications de Delphine Evenou. Si je savais qu'il est en Espagne et où, nous irions le chercher, nous ne savons pas où il est. Ainsi s'exprime le chef de la police catalane, Josep Luis Trapero. Il évoque bien sûr le suspect des attentats de jeudi dernier qui est toujours en fuite actuellement. De nombreuses personnes ont été interpellées depuis, mais ce Marocain de 22 ans, Younes Abou Yacoub, est donc toujours dans la nature. Camille Magnard, bonsoir.
Bonsoir Ilan.
Vous étiez aujourd'hui donc au point presse où s'est exprimé justement Josep Luis Trapero. Alors il évoque les différentes hypothèses et pistes qui sont actuellement suivies par les enquêteurs, mais il reste très prudent.
Oui, prudent, c'est le moins qu'on puisse dire, en particulier sur celui qui fait depuis ce matin les gros titres de la presse espagnole, le mystérieux imam Abdel Baki, arrivé dans le village de Ripoll il y a 2 ans, avec derrière lui un séjour en prison, droit commun, dans la région de Tarragone, qui est connue pour héberger des foyers de salafistes. C'est lui qui aurait manipulé, radicalisé dans son garage, transformé en mosquée, les 12 jeunes qui allaient devenir les djihadistes de Barcelone et Cambrils. Oui, mais voilà, pour le chef de la police catalane, Josep Luis Trapero, la cellule de Ripoll compte bien 12 membres et pas 13.
Toute l'enquête que nous menons depuis les attentats, les documents étudiés, les témoignages recueillis, les pistes étudiées, les informations vérifiées, pour le moment, tout ça nous donne 12 personnes identifiées, pas plus.
Voilà qui éclairait l'occasion d'un rappel sur le sort de ces 12 terroristes depuis mercredi.
Sur les 12 hommes identifiés, 5 ont été tués après l'attaque de Cambrils. Un est mort dans l'explosion de l'atelier de confection de bombes à Alcanar, où l'on a aussi retrouvé les restes de 2 corps. Ça fait donc 3. 4 autres sont actuellement interrogés et il y en a un qui nous échappe toujours.
Sauf que si on refait le compte, 5 plus 3 plus 4 plus 1, ça fait 13 en tout. Et voilà qui accrédite un peu plus la thèse soutenue par la presse, selon laquelle le fameux imam ferait partie de ceux qui sont morts dans l'explosion accidentelle d'Alcanar. Aucune confirmation officielle pour le moment, on l'aura compris. On apprendra juste que l'imam Abdel Baki a été en contact par le passé avec au moins une personne visée par une enquête antiterroriste. Sur les voyages en Europe centrale et au Maroc d'une partie du groupe, ce n'est à ce stade qu'une piste de travail, selon le chef des enquêteurs catalans.
Merci à vous Camille Magnard, avec les moyens techniques de Laurent Lucas. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui la mort dans ces attentats d'un petit garçon australo-britannique de 7 ans, Julian Cadman, dont le grand-père avait posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Les Kurdes irakiens pourraient finalement renoncer à organiser le référendum sur leur indépendance qui était prévu pour le 25 septembre. Un haut responsable kurde affirme aujourd'hui que si Bagdad est prêt à des concessions, eh bien cette consultation pourrait finalement être annulée. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui amène aujourd'hui finalement les Kurdes à envisager ce renoncement?
Il y a d'abord une raison politique liée au contexte régional. Vous savez que la Turquie, la Syrie et l'Iran comptent également des communautés kurdes importantes et les États-Unis, comme d'autres pays occidentaux du reste, ont estimé que la priorité devrait pour l'heure être donnée à la guerre contre l'organisation État islamique. Certes, les Kurdes sont souvent en première ligne dans cette lutte antiterroriste, terroriste, mais le secrétaire d'État américain Rex Tillerson leur a suggéré la semaine dernière de repousser leur référendum. L'indépendance du Kurdistan est fermement rejetée, on le sait, par Bagdad. Il y a donc la crainte de voir s'ouvrir un nouveau conflit avec le pouvoir central irakien. Aujourd'hui, vous le disiez, un des responsables de l'Union patriotique du Kurdistan se dit prêt à renoncer à ce référendum en échange de concessions financières et politiques. Une délégation kurde est actuellement à Bagdad pour en discuter. Que demande-t-elle exactement? Que Bagdad aide la région autonome à faire face à sa crise financière, voire à régler sa dette qui s'élève à 12 milliards de dollars. La délégation kurde d'Irak demande également aux autorités irakiennes de régler la question de certaines régions contestées comme Kirkouk, région pétrolifère où vivent des communautés arabes et turkmènes. Donc tout cela est sur la table en ce moment à Bagdad, mais rien ne dit que les demandes kurdes seront acceptées, d'autant que certains avancent un report du référendum alors que d'autres évoquent son renoncement.
Merci à vous Nabila Hamel. Doğan Akanlı remis en liberté conditionnelle. On rappelle que cet écrivain allemand d'origine turque a été arrêté hier en Espagne. Ce sont les autorités turques qui ont demandé à Interpol d'émettre un mandat d'arrêt contre lui. Les motifs officiels de son arrestation ne sont pas connus pour le moment, mais Doğan Akanlı est connu pour être très critique à l'égard du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Il a donc été relâché aujourd'hui, mais il doit rester à Madrid en attendant que la Turquie demande formellement son extradition. Bonsoir Mayouen Bordron.
Bonsoir Hélène.
Alors depuis quelque temps, la Turquie multiplie les mandats d'arrêt de ce genre qui ciblent les détracteurs du gouvernement vivant à l'étranger.
C'est une sorte de chasse aux sorcières que mènent les autorités turques. Dernier exemple en date, celui de l'écrivain allemand né en Turquie. Doğan Akanlı a été emprisonné dans son pays d'origine dans les années 80 pour ses activités d'opposant. Et en 2010, alors que l'écrivain revenait en Turquie après son exil en Allemagne, il avait été arrêté à l'aéroport d'Istanbul. Cette fois, les autorités l'accusaient d'avoir participé à un vol à main armée en 1989. Mais en toile de fond, c'est surtout ses écrits sur la reconnaissance du génocide arménien qui posent problème à Ankara. Un opposant turc visé par un mandat d'arrêt international émis par la Turquie, puis arrêté en Espagne. L'histoire s'est répétée hier, moins de deux mois après l'arrestation d'un journaliste turco-suédois à l'aéroport de Barcelone. Yamza Yalçın est lui accusé d'avoir insulté le président turc et d'être lié à un groupe terroriste. Le journaliste exilé en Suède écrit pour Odak Derisi, un magazine en ligne critique envers le gouvernement turc. Enfin, autre histoire similaire, celle du journaliste allemand d'origine turque, Deniz Yücel. Le correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt est emprisonné depuis 7 mois pour propagande terroriste et incitation à la haine. On l'accuse d'avoir donné la parole à des représentants du PKK, l'organisation kurde opposée au régime de Recep Tayyip Erdoğan.
Merci à vous, Mayouen Bordron. Les autorités sud-africaines accordent finalement l'immunité diplomatique à la première dame zimbabwéenne Grace Mugabe, qui a pu rentrer à Harare ce matin sans encombre. Grace Mugabe était, on le rappelle, sous le coup d'une plainte en Afrique du Sud où elle est accusée d'avoir battu une jeune fille à coups de rallonge électrique dimanche dernier dans un hôtel de Johannesburg. Elle n'était pas apparue de la semaine. À Johannesburg, les précisions de Lisa Fabian.
Invisible depuis une semaine, Grace Mugabe est apparue ce matin à l'aéroport d'Harare où elle a pu rentrer sans encombre après une semaine de polémique en Afrique du Sud. La première dame échappe donc à la justice sud-africaine malgré les menaces de la police qui avait lancé jeudi une alerte à tous les postes frontières pour l'empêcher de quitter le territoire. Il a fallu attendre le milieu de l'après-midi pour que le ministère sud-africain des Affaires étrangères confirme que Grace Mugabe a pu bénéficier de l'immunité diplomatique qu'elle réclamait. Cette décision n'a pas été facile à prendre si l'on en croit son communiqué qui souligne la nécessité de maintenir de bonnes relations au sein de la communauté de développement régional, particulièrement entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Difficile de savoir ce qui s'est tramé en coulisses ces derniers jours. Hier, les vols entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont été suspendus, officiellement pour une question de permis de vol internationaux. Ils ont repris ce matin, au moment même où la première dame rentrait au pays. L'opposition sud-africaine a fermement condamné ce dénouement. Elle dénonce la complicité du gouvernement qui avait déjà laissé partir le président soudanais Omar el-Béchir en juin 2015, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Quant aux avocats de la jeune plaignante sud-africaine, ils prévoient déjà de lancer un nouveau recours contre Grace Mugabe.
Des dizaines de milliers de Hongkongais ont manifesté aujourd'hui contre une décision de justice. Il proteste contre la condamnation de 3 militants démocrates de premier plan, instigateurs du mouvement de contestation de 2014. Ces 3 jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont écopé jeudi dernier en appel de peines allant de 6 à 8 mois de prison pour rassemblement illégal. Ils sont en outre déclarés inéligibles au Conseil législatif de Hong Kong pour les 5 prochaines années. La police a estimé donc la participation à 23 000 manifestants aujourd'hui qui ont notamment, pendant le défilé, mis en cause l'indépendance de la justice du territoire vis-à-vis de la Chine. Une grande découverte effectuée aujourd'hui dans la mer des Philippines, c'est le cuirassé USS Indianapolis qui a enfin été trouvé après plusieurs décennies de recherche. Le navire avait été torpillé par un sous-marin japonais 2 semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son épave a donc été localisée à 5,5 km de profondeur 72 ans plus tard. Plusieurs villes veulent mettre le holà sur le tourisme de masse et commencent à le faire savoir. Une manifestation sur le sujet a réuni un millier de personnes à Saint-Sébastien cette semaine et Venise commence également à dire stop. Le tourisme de masse modifie en profondeur ses structures, son urbanisme, son architecture économique, son cadre de vie et le quotidien des habitants qui y vivent. Éric Valmire a recueilli dans la Sérénissime quelques témoignages sur le sujet.
Venise, la lagune, le pont des soupirs, les doges, San Marco, le chant des gondoliers. Cette culture, les hordes de touristes la transforment en industrie, un musée à ciel ouvert avec une valeur marchande en constante diminution sous le poids des low cost. Dans le centre, les restaurants sont remplacés par les sandwicheries et la ville se dépeuple. Moins de 50 000 habitants, la désolation de ce qui reste, véritable résistant.
Il faut choisir si on va devenir une sorte d'Euro Disney ou si on veut rester une ville avec la diversité de la structure. Naturellement, c'est une ville unique, mais en même temps, c'est une ville. Le pire ennemi de Venise, c'est le Vénitien, qui fait de son ville un objet à vendre. Tout le monde a envie de gagner sur Venise et pas de vivre à Venise.
Autour de Rialto, les artisans vénitiens ont cédé leurs cabanes de masques à des repreneurs venus d'Asie. Des mouvements citoyens s'opposent régulièrement au passage fréquent et quotidien des paquebots croisières qui détériorent la lagune. Mais les institutions locales, enfermées dans la logique d'une économie de tourisme, ne peuvent se passer de la manne financière que représentent les droits de passage payés par les tour opérateurs.
Éric Valmire donc à Venise. En France, il faut malheureusement s'y faire. La rentrée, c'est dans 2 semaines précisément. Pour les étudiants, ce sera un petit peu plus tard, mais ils doivent s'y préparer dès maintenant, car d'année en année, elle est toujours plus chère pour eux. L'UNEF vient tout juste de publier son enquête annuelle. Le coût de la vie pour les étudiants va augmenter de plus de 2%. C'est 3 fois plus que l'inflation. Delphine Evenou.
Chaque année, l'UNEF fait le même constat, même si pour cette rentrée, la hausse du coût de la vie étudiante est plus marquée. Et chaque année, ce sont 2 facteurs qui plombent le budget des étudiants. D'abord, bien sûr, le logement, qui représente plus de la moitié des dépenses, 670 euros en région parisienne, 410 ailleurs, alors qu'à partir d'octobre, les APL baissent de 5 euros et que l'encadrement des loyers est loin d'être généralisé. Une fois que cette somme est ponctionnée, il reste les transports, 267 euros en moyenne par an, avec de mauvaises élèves, l'Île-de-France, mais aussi Lyon, Dijon, Rennes et Tours. Quand Toulouse permet aux étudiants de se déplacer pour 100 euros par an, on peut donc faire des choix politiques, tonne l'UNEF. Le syndicat qui rappelle aussi que pour ne pas se retrouver trop dans le rouge, près de la moitié des étudiants est obligé de travailler et parfois plus qu'un simple mi-temps, au moins 24 heures par semaine qui ne sont pas consacrées aux études. Être étudiant coûte de plus en plus cher, le constat n'est donc pas nouveau, mais pour cette rentrée d'année présidentielle, l'UNEF s'inquiète de l'absence de signaux positifs envoyés par le gouvernement à la jeunesse.
Et un nouveau moyen justement de faire des économies tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, c'est cette appli anti-gaspi déjà installée dans 30 villes en France. Too good to go, pour trop bon pour finir à la poubelle. Une fois téléchargée sur votre smartphone, cette appli vous indique quel commerçant ou restaurant autour de vous garde des invendus au frigo. Vous pouvez alors les acheter à prix bradé et passer les chercher en fin de journée. Comment ça marche plus précisément? Explication et reportage à Grenoble de Virginie Salançon.
Chaque jour, les commerçants composent un panier avec les invendus du jour qui finiraient sinon à la poubelle. L'appli vous indique le plus proche de chez vous, le type de restauration et combien d'invendus il lui reste, mais sans préciser ce qu'il y a exactement dans le panier. Vous payez sur l'appli, vous passez à un horaire précis, souvent juste avant la fermeture. Et aujourd'hui, Pierre, jeune papa grenoblois, a récupéré chez un primeur près de chez lui
deux melons, des brocolis, deux petites endives, des tomates et une pomme, je crois. A priori, c'est des légumes qui sont un peu passés, mais si c'est pour ce soir ou pour demain, je pense que ce sera parfait. Et du coup, ils nous font le moitié prix, 4,50€.
Des prix bradés donc, sur lesquels l'appli garde 1€ pour se financer. Camille Colbus est la directrice des opérations de Too Good To Go.
Dans le monde, on produit beaucoup de nourriture et un tiers de cette nourriture est jetée. Et ça représente tout de même 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée en France tous les ans. Et donc aujourd'hui, on a une communauté de plus de 1200 commerçants partenaires qui s'engagent à nos côtés pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Lancée à Paris et Lille l'an dernier, à Lyon en octobre, l'appli vient d'arriver à Grenoble, Brest et Saint-Étienne. Grenoble, où elle fonctionne pour l'instant avec une soixantaine de commerçants.
Le ciel de demain est plutôt nuageux au nord de la Loire, très ensoleillé en revanche sur le sud de l'Hexagone. Les températures de la matinée partent de 9 sur le nord-est et montent jusqu'à 20 près de la Méditerranée. Édition préparée avec Moussa Adam, réalisé à la technique par Myriam Guillot.